ce que je propose pour ce soir, c'est qu'on regarde en fait la première de deux récits que l'évangile de Marc et l'évangile de Matthieu mettent toujours ensemble. Et ce sont deux histoires qui parlent des attentes. La première de ces deux, c'est celle que nous allons voir aujourd'hui, la question. On parle de la question sur la résurrection, où les gens vont venir à Jésus et lui poser une question au sujet de la résurrection. Mais réellement, ce qui est en train de se passer dans Marc, c'est que nous avons, en fait, le sujet, c'est qu'est-ce que nous attendons de la part de Dieu? Qu'est-ce que l'humanité, et en particulier, qu'est-ce que le peuple de Dieu peut attendre de la part de Dieu? S'en suivra, immédiatement après, une deuxième question, cette fois-ci, qui est quel est le plus grand commandement? Ou en d'autres mots, qu'est-ce que Dieu attend de son peuple? Et c'est avec cette optique que j'aimerais bien qu'on lise le passage ce soir, et ce qu'on verra aussi la semaine prochaine. Qu'est-ce que nous, en tant que le peuple de Dieu, nous attendons de la part de Dieu? Et puis, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ce que nous verrons la semaine prochaine. Lisons maintenant le texte, donc dans Marc chapitre 12, et versets 18 à 27. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, voici que Moïse nous a prescrit, si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le second épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Il en fut de même du troisième, et aucun des sept ne laissa de descendance. Après eux, tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les sept l'ont eue pour femme. Jésus leur dit, pourquoi? Voici pourquoi vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand ils ressusciteront d'entre les morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni des femmes de mari, mais ils seront comme des anges dans le ciel. Quant aux morts et leur résurrection, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit près du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Votre erreur est grande. Donc, ce que nous allons faire dans les prochaines minutes, c'est juste prendre un peu de temps pour comprendre la question et la réponse de Jésus. Et ensuite, regarder comment cela s'applique à nous. Mais comprenons qui sont déjà les forces en présence ici. Qui sont les groupes qui sont représentés ce jour-là au temple? Bon, premièrement, nous avons Jésus et ses disciples. Ils sont là dans la cour du temple et Jésus est en train d'enseigner pendant la dernière semaine avant sa crucifixion. Et il y a la préparation de la mort de Jésus, la préparation de la Pâque des Juifs qui fait l'arrière-fond de tout cela. Et nous avons Jésus qui est en conflit avec le deuxième groupe, qui sont les représentants et les dirigeants spirituels du peuple. Et ici, nous avons les Sadducéens qui viennent. Et puis troisièmement, le troisième groupe qu'on a tendance à oublier, mais c'est les foules qui entourent Jésus et qui sont en train d'écouter tout ce que Jésus enseigne. Et les foules qui sont le grand obstacle au chef des Juifs. Parce que les chefs ont envie d'éliminer Jésus, soit en l'arrêtant, soit en le tuant. Mais c'est la foule qui pour l'instant les empêche d'arriver. Et donc nous avons ces trois groupes. Mais le seul groupe qu'on ne connaît pas très bien, c'est les Sadducéens. En fait, dans Marc 12, c'est la seule fois dans l'évangile de Marc qu'ils sont nommés spécifiquement. Mais les Sadducéens étaient le parti, on pourrait dire le parti religieux, politique des prêtres, de la famille des grands prêtres. Ils étaient aussi, les Sadducéens, les adversaires théologiques et les adversaires politiques des pharisiens. Et si les pharisiens, on se souvient, c'était un peu les experts de la loi, et très souvent les opposants de Jésus, bon, les Sadducéens, c'était le parti opposé. Et si les Sadducéens disaient une chose, bon, les pharisiens allaient dire l'autre, et vice-versa. Et une des particularités des Sadducéens, c'est qu'ils ne reconnaissaient que les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, donc la Torah. Et tous les autres livres, même s'ils étaient respectés, n'étaient pas considérés comme la parole de Dieu. En tout cas, pas au même niveau que la Torah. Et donc, si on avait un débat avec un Sadducéen, il fallait toujours se référer à la loi de Moïse, parce que le reste n'était que du vent en comparaison. Et donc, les Sadducéens, comme Marc le mentionne aussi, n'acceptaient pas la doctrine de la résurrection, qui était principalement basée sur le témoignage des prophètes et des psaumes. Et vu que les Sadducéens mettaient une valeur beaucoup moins importante dans ces livres, ils ne reconnaissaient pas et n'acceptaient pas la doctrine de la résurrection. Et pour cela, ils étaient en opposition avec les pharisiens. Et finalement, ils font vraiment partie de la minorité. On va trouver très très peu de pharisiens en Israël. Mais par contre, c'est eux qui détiennent le pouvoir politique et religieux au niveau du temple et au niveau de Jérusalem. Donc voilà les personnes qui viennent à Jésus avec une question au sujet de la résurrection. Des gens qui ne croient pas à la résurrection du tout. Bon, dans leur question, donc ils vont venir et parler de la résurrection. J'aimerais juste clarifier quelques éléments. Quand on parle de résurrection dans ce texte, on parle d'une résurrection corporelle, d'accord? Que nos corps, en tant qu'êtres humains, vont être ramenés, ressuscités, donc qui vont être ramenés à la vie. On n'est pas en train de parler de l'immortalité de l'âme, c'est-à-dire est-ce que notre esprit va au ciel après que nous mourons? On n'est non plus pas en train de parler d'une réincarnation. Est-ce que nos esprits, nos âmes vont reprendre vie dans un autre corps, dans un autre? Ici, les Sadducéens sont vraiment en train de demander à Jésus, est-ce que nous allons revivre en tant que nous-mêmes? Est-ce qu'il y aura une résurrection corporelle? Et plus que cela, on est vraiment en train de parler d'une résurrection générale, au dernier jour. Nous savons déjà des évangiles que Jésus a ressuscité des personnes. On sait dans Marc, par exemple, Jésus va ressusciter la fille de Jaïros. Il la ramène à la vie. Mais dans ce contexte-là, c'est presque une guérison de la mort. Mais nous savons que la fille de Jaïros va finir par mourir à nouveau. Et qu'elle va être ensevelie et que Jésus ne va pas, en tout cas pour le moment, la ressusciter. Dans l'évangile de Jean, nous avons Jésus qui ressuscite Lazare après 4 jours. Mais de nouveau, Lazare n'est pas ressuscité pour la vie éternelle. C'est en quelque sorte un sursis pour la mort. Donc, les Sadducéens ne sont pas en train de dire à Jésus, est-ce que les miracles que tu as faits, c'est des vraies résurrections, mais plutôt, est-ce qu'il y aura une résurrection pour tous les morts au dernier jour? Et donc, comme j'ai déjà mentionné, cette résurrection était la doctrine des pharisiens, c'était eux qui l'enseignaient au peuple, et c'était basé sur plusieurs textes dans l'Ancien Testament. Et juste pour vous donner un exemple, qui était ce qu'on a trouvé dans les écrits rabbiniques, une des bases de cette doctrine se trouve dans Daniel, chapitre 12, et les versets 2 à 3. Je vais juste vous lire. Ici, nous avons la prophétie de Daniel. « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. » Et dans ce texte, nous avons cette promesse qui est là, qu'il y a une attente éternelle pour ceux qui, du peuple de Dieu, qui suivent Dieu selon la justice. Bon, quand les pharisiens viennent, ils savent que Jésus se trouve, quand les Sadducéens viennent, ils savent que Jésus se trouve du côté des pharisiens par rapport à la résurrection. Parce qu'ils viennent avec une question piège. Nous n'avons pas ici des Sadducéens qui disent, bon, on croit en la résurrection, mais on a vraiment un problème doctrinal ou légal ici, et on aimerait bien, Jésus, que tu nous aides avec cela. Leur but, c'est d'abord de se moquer, de discréditer la doctrine de la résurrection, de ridiculiser ce que Jésus et ce que les pharisiens croient. Et puis, deuxièmement, ils ont envie de discréditer Jésus lui-même. C'est-à-dire, si Jésus a l'air d'un imbécile devant la foule, si Jésus n'arrive pas à répondre à leurs questions, bon, la foule va le laisser tomber. Et à ce moment-là, les Sadducéens, les chefs du peuple, auront l'occasion de se servir de lui. Donc ici, nous n'avons pas une question honnête, nous n'avons pas une question non plus qui est là dans le but d'avoir plus de connaissances sur Dieu, mais réellement, c'est le but de ridiculiser la résurrection et ridiculiser Jésus, dans un but mauvais qui est là. Et donc, on a cette question assez étrange, n'est-ce pas? Bon, selon la loi, une femme doit épouser le frère de son mari si elle n'a pas d'enfant. Et donc, ils arrivent avec cette situation. Bon, une femme qui a eu 7 maris légalement selon la loi de Moïse. La résurrection, c'est la femme de qui? Avec, bien sûr, le but qu'on ne puisse pas répondre à cela. Et c'est possible même que c'était un peu la question piège par excellence des Sadducéens lorsqu'ils avaient un débat avec les pharisiens. Bon, dans la loi de Moïse, il n'y a rien pour répondre à cela. Et on a l'impression qu'il n'y aura aucune issue pour Jésus. Mais dans la réponse de Jésus, il y a vraiment une dureté qui nous surprend un peu. Vous avez vu les paroles que Jésus dit. Il commence en disant, vous êtes dans l'erreur. D'accord? Pas, bon, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, que je vais vous expliquer, mais tout de suite, il passe à la jugulaire. Vous êtes dans l'erreur. Et puis, il attaque au niveau de leur cœur et de leur pensée. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Puis, il va donner une explication, mais il terminera de nouveau en disant aux Sadducéens, votre erreur est grande. Votre erreur est grande. Si j'étais Jésus, je serais allé chercher Daniel et dire, bon, regardez ce qui se passe dans Daniel. Regardez ce qui se passe dans Ézéchiel, dans le prophète Ésaïe, ce que Dieu a dit. Mais Jésus ne va pas faire cela. Il va rencontrer les Sadducéens sur leur propre terrain, entre guillemets, mais il va répondre à cette question. Et moi, j'ai toujours trouvé un peu la réponse de Jésus assez bizarre. Parce qu'il va prendre un texte qui est tiré d'Exode chapitre 3, c'est le verset 15, et il va dire, bon, lorsque Dieu se présente à Moïse, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ça prouve la résurrection. Et j'ai toujours trouvé ça très étrange que ce soit la réponse que Jésus donne. Mais en réalité, je crois qu'il y a plus que cela qui est en train de se passer. Avant de parler du passage du buisson ardent, Jésus va parler de la puissance et du caractère de Dieu révélé dans les Écritures. Et je crois que la réponse de Jésus se passe à deux niveaux différents. Pas seulement ce qu'on voit dans Exode 3:15, mais plutôt ce qu'on voit dans le témoignage des Écritures en général. C'est-à-dire, qui est Dieu dans l'Ancien Testament? Qui est le Dieu qui s'est révélé au peuple d'Israël? Et est-ce que ce Dieu-là, est-ce que c'est de ce Dieu-là qu'on peut attendre la résurrection? Bon, juste une chose avant qu'on regarde Exode 3, verset 15, c'est que on va remarquer, si on lit jusqu'au verset 28, que la réponse de Jésus est acceptée par la foule et par ceux qui l'écoutent. Et on a la même chose qui est mentionnée dans Luc 20 et puis Matthieu 22. Jésus donne cette réponse, il cite Exode 3, verset 15, et tout le monde est satisfait. Et nous, on se dit, mais bon, moi, j'aurais pas été satisfait avec cela. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'on voit ici? Bon, dans Exode 3:15, comme nous avons déjà vu, Dieu se présente. Exode 3, ouais, désolé. C'est Exode 3:15, pas 13. 15. Dieu se présente à Moïse et dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je ne crois pas que ce texte soit vraiment un texte sur lequel nous allons baser une doctrine, où nous allons formuler une doctrine de la résurrection. Mais par contre, qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? Bon, nous voyons, au moment où Dieu est dans le buisson ardent en train de parler à Moïse, une révélation du caractère et de la personne de Dieu. Dieu va dire à Moïse, à ce moment-là, « Je suis Yahvé ». Et c'est un peu le moment clé dans le livre d'Exode où Dieu va dire pour la première fois à Moïse, il va révéler son nom, le nom « Je suis ». Et lorsque, dans l'Ancien Testament, Dieu se présente, il faut que tout le monde se mette à écouter. Parce qu'il y a une vérité, il y a quelque chose de vraiment profond sur qui est Dieu qui va ressortir. Et ici, lorsque Dieu dit « je suis Yahvé », il dit « je suis le Yahvé d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Et il y a deux choses qui ressortent. Le premier que Jésus dit lui-même, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Yahvé, le Dieu éternel, c'est le Dieu de la vie. C'est le Dieu éternel. Et quel genre de Dieu de la vie, et quel genre de Dieu éternel va se révéler en tant que le Dieu de cadavres. Dieu ne dit pas « j'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Il dit « je suis ». Et en cela, Dieu est en train de s'associer à des personnes qui sont mortes. Mais le Dieu vivant, selon la logique de Jésus, le Dieu vivant ne peut pas être associé à la mort. Et presque en vertu d'être Abraham, Isaac et Jacob qui sont avec Dieu, il y a cette attente de la vie qui vient là. Mais la deuxième chose qui est là, c'est que Dieu n'a pas oublié, plus de 400 ans plus tard, Dieu n'a pas oublié Abraham, Isaac et Jacob. Et lorsque le Dieu vivant, lorsque le Dieu de vie se souvient de quelqu'un, bon, il y a plus d'espoir que simplement que le nom ne va pas être oublié. Un petit exemple, lorsque je pense à mes grands-parents, moi en tant qu'être humain, cela ne change pas grand-chose que je me souvienne de mon grand-père. Je veux dire, c'est bien, je peux raconter son histoire, cela me fait chaud au cœur, mais cela ne va pas faire grand-chose pour mon grand-père. Mais si le Dieu qui parle et cela devient réalité, si le Dieu Tout-Puissant se souvient de quelqu'un, bon, il y a l'espérance d'une éternité qui va venir. Mais si on va plus loin, si on essaie de regarder la vision d'ensemble des Écritures dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'ils nous disent au sujet de Dieu? Bon, deux mots qui vont ressortir sans cesse pour parler de Dieu, c'est que Dieu est vrai, il est fidèle, et puis que Dieu est miséricordieux. Dans Exode 34, verset 6, un peu plus loin dans le livre d'Exode, on a le deuxième moment de révélation divine. Il y a Exode 3 et Exode 34, c'est un peu les points forts de Dieu qui se révèlent. Et voici ce qu'on lit dans Exode 34, verset 6. L'Éternel passa devant lui en proclamant. L'Éternel, c'est-à-dire Yahvé, Dieu compatissant et qui fait grâce, long à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Dieu se révèle un Dieu qui est fidèle et un Dieu qui est bienveillant, qui est miséricordieux, qui aime continuellement. Ça, c'est l'idée. Alors, posons-nous la question. Un Dieu qui est fidèle a fait des promesses aux patriarches. Il a fait des promesses à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et ce Dieu fidèle n'a pas encore gardé toutes les promesses à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est intéressant parce que à Genève, on a parlé de cela ce matin, mais juste quelques textes à considérer. Dans Hébreux chapitre 11, verset 13 et puis le verset 39, nous lisons ceci, en parlant des patriarches. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur terre. Ils sont tous morts, sans avoir reçu ce que Dieu leur a promis. » Et l'auteur des Hébreux va répéter dans le verset 39, « Tout cela, maintenant il parle de tous les fidèles, tous les saints de l'Ancien Testament, qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage, n'ont pas reçu ce qui leur avait été promis. » Les fidèles à Dieu n'ont pas reçu les promesses que Dieu leur a données. Mais si Dieu est fidèle, comment cela est-il possible? Comment est-ce qu'un Dieu fidèle ne peut pas donner les promesses, accomplir les promesses qu'il a données? Bon, c'est parce qu'il y a une attente qui va plus loin que la mort. Les versets 16 et les versets 40 qui vont suivre ce que nous avons lu avant, toujours dans Hébreux 11, nous lisons ceci. Mais en réalité, les patriarches aspiraient à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu se fait appeler du nom d'Abraham, d'Isaac et de Jacob parce qu'il a un avenir qui est préparé pour eux, nous dit l'auteur aux Hébreux. Et le verset 40. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils, c'est-à-dire les saints, ne parviennent pas sans nous à la perfection. Dieu a attendu pour accomplir les promesses parce que tous ensemble, nous allons recevoir les promesses de Dieu. Et donc, dans la fidélité de Dieu, Dieu ne peut pas mentir. C'est impossible. C'est inimaginable. Nous avons l'obligation de trouver la résurrection. Que Dieu n'en a pas fini avec Abraham, qui n'a pas reçu sa terre. Dieu n'en a pas fini avec Jacob, qui n'a pas vu les nations qui sont venues. Dieu n'a pas fini avec le peuple, ceux qui sont morts fidèlement à lui. Bon, Dieu est miséricordieux. Juste quelques questions à se poser. Selon les Sadducéens, la mort, c'est le point final dans la vie des êtres humains. Cela signifie que Dieu a décidé de nous laisser dans la situation de Genèse chapitre 3. Que une fois que l'esclavage de la mort est venu sur l'humanité, Dieu a dit, bon, c'est fini. Je n'ai plus de plan, il n'y a plus d'issue pour l'humanité. Selon les Sadducéens, l'amour perpétuel de Dieu s'arrête pour chacun d'entre nous à notre mort. Parce que Dieu n'aime pas un cadavre. Dieu aime les personnes. Et selon les Sadducéens, Dieu n'a rien prévu de meilleur pour nous que ce que nous avons maintenant. Mais le Dieu fidèle, le Dieu qui aime perpétuellement dans l'Ancien Testament, voit plus pour nous que cela. Et ça, il faut le comprendre, on le trouve déjà dans les Écritures. Et puis, Jésus va dire, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Et cela, c'est de nouveau repris par l'auteur des Hébreux pour parler de la foi d'Abraham. Hébreux 11, verset 19. Abraham comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Et il y a là un signe. Jésus va dire, vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Mais le témoignage des Écritures, c'est que les patriarches avaient confiance en Dieu. Paul dira la même chose dans Romains 4, verset 17. La promesse que Dieu lui dit, c'est ceci. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père à tous, devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Ça, c'est le témoignage des Écritures. Ça, c'est qui Dieu est. C'est un Dieu qui est fidèle, qui est miséricordieux et qui est tout-puissant. Jésus dit, si vous saviez cela au sujet de Dieu, vous ne douteriez pas de la résurrection. Et quand on a Dieu qui s'associe à Abraham, Isaac et Jacob, c'est logique qu'il y a une attente. Bon, nous avons cette référence que Jésus fait à une existence comme celle des anges. Et je ne prétends pas tout comprendre de ce que Jésus a dit, mais juste quelques idées qui sont là. Premièrement, Jésus promet une existence différente de celle que nous avons maintenant. Qu'il y aura une réalité autre que la réalité physique de notre vie maintenant. Jésus n'est pas en train de dire, nous allons être des anges, mais nous allons être comme des anges. Il y aura un changement à un certain niveau dans qui nous sommes. Je crois que le but ici, c'est de reprendre les Sadducéens pour leurs questions. Parce que leur question est basée uniquement sur une logique terrestre, une logique mortelle de la vie. C'est-à-dire, on est en train de penser à des gens qui meurent, des gens qui se marient, ce besoin de reproduction avant que ce soit trop tard. Et Jésus dit, la réalité de la résurrection se passe sur un autre plan. Il y aura une autre vie, une autre sorte d'existence qui va changer, en quelque sorte, la manière dont nous vivons. Et je ne sais pas comment Jésus sait cela exactement, il ne nous le dit pas, probablement par révélation que Dieu lui a montré cela. Mais il y a cette remise en question de gens qui pensent à la résurrection d'une manière trop humaine, et sans laisser la place à la gloire de Dieu. Donc qu'est-ce que cela change pour nous? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de Dieu si ce que Christ a dit est vrai? Bon, premièrement, nous attendons une vie au-delà de la mort. Et je sais que je ne vous apprends rien en disant cela, mais ça vaut la peine de le répéter, parce que c'est si essentiel dans ce que nous croyons. Les Sadducéens sont convaincus que la vie s'arrêtera à la mort, que la chute, c'est la fin de l'histoire de l'humanité, qu'il n'y a plus rien à attendre après cela. Dans notre culture, nous pouvons voir les conséquences de cette pensée, d'une pensée qui dit, après la mort, nous ne pouvons attendre rien. Je lisais, quand j'étais à l'école, L'étranger d'Albert Camus, un livre que j'ai beaucoup détesté à l'époque, que j'aime toujours pas trop, mais qui a vraiment des choses intéressantes à nous dire au sujet de la pensée matérialiste quant à l'attente de la mort. Dans L'étranger d'Albert Camus, il y a un échange entre le Meursault qui est condamné à mort et puis le chapelain qui vient pour prendre sa confession pour lui faire l'extrême onction. Et Meursault refuse. Il dit, de toute façon, que je meurs demain, que je meurs dans 20 ans, qu'est-ce que ça change? Je meurs et je vais m'éteindre pour toujours. Et le chapelain lui dit, n'avez-vous donc aucun espoir et vivez-vous avec la pensée que vous allez mourir tout entier, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui survit à la mort? Oui, ai-je répondu, dit Meursault. J'ai répondu, il n'y a rien qui va après. Ce qui est tragique, c'est pas pour que cela soit vrai pour un personnage dans un livre. Ce qui est tragique, c'était vrai pour Camus, qu'il était convaincu que tout s'éteint, tout termine à la mort. Et on retrouve en cela l'introduction à l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 1, verset 1 à 3, qui dit ceci. « Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. » En tant qu'être humain, on vient et on part, et puis rien ne change finalement. Cela ne vaut rien. Bon, ça c'est la conclusion d'un monde qui vit dans la logique de la mort qui met fin à tout. Mais nous avons foi en une vie qui va au-delà de la mort. Nous affirmons que c'est vrai, que tout ne sert à rien s'il n'y a pas de résurrection. mais il y a une résurrection. Et nous avons une foi pour plus que cette vie-ci. Paul dira aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Le christianisme n'est pas la religion pour améliorer notre vie ici. Si vous êtes chrétien seulement pour cette vie, vous vous trompez de religion, dit Paul. Parce que vous avez qu'à être malheureux. Trouvez autre chose. Mais nous avons l'espérance pour l'éternité. Voilà en quoi nous avons mis notre espoir. Donc qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Nous attendons une existence meilleure que celle-ci. Nous n'avons pas à regarder nos vies et dire voici tout ce que Dieu a à nous offrir pour cette vie. Jésus, cette péricope, dans cet échange avec les Sadducéens, laisse entrevoir une existence meilleure que la nôtre. Et Jean exprime cela dans 1 Jean 3, verset 2, en parlant de la résurrection. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous avons déjà changé de statut par rapport à Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous attendons quelque chose de mieux. Avoir une vie semblable à celle de Christ ressuscité. Avoir une vie face à Dieu. Et on va pas lire le texte, mais lorsque Paul parle de la résurrection aux chrétiens dans 1 Corinthiens 15, c'est le mot gloire qui sort tout le temps. C'est le mot incorruptibilité, c'est le mot saint, c'est le mot vie, éternel, immortel, glorieux. Et ces mots ressortent un mot après l'autre, après l'autre, après l'autre, en disant ce que nous avons maintenant n'est rien comparé à ce que nous attendons. Est-ce que Dieu va nous laisser pour toujours dans les souffrances d'aujourd'hui? La réponse, c'est non. Nous vivons dans une culture, dans une société très à l'aise. Je crois que la dernière étude a dit la Suisse, nous sommes numéro 2 au monde pour la qualité de vie. Mais la réalité, c'est que dans la majorité du monde, le quotidien, c'est un quotidien de souffrance. Et est-ce que Dieu a prévu quelque chose de mieux pour nous? Et la réalité, c'est oui. Dieu nous a créés pour la gloire et il nous a donné le moyen de l'atteindre. Dieu nous pouvons attendre la gloire de sa part. Puis finalement, nous pouvons attendre de Dieu qui garde ses promesses. Qui garde ses promesses pour nous. Même si on meurt avant d'avoir tout vu réalisé. Dans Hébreux 11, le verset 39, l'auteur parle de tous les fidèles à travers les siècles qui ont souffert, qui ont perdu tout pour Dieu. Et il dit ceci, verset 38, Hébreux 11, 38. « Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. » Et il dit ensuite, parce que Dieu a prévu de tout donner à nous ensemble. Mais il n'a pas dit eux dont Dieu n'était pas digne, mais eux dont le monde n'était pas digne. Nos souffrances, les pertes que nous avons, les pertes que nos frères et sœurs en Syrie ou en Irak sont en train de souffrir tous les jours, Dieu en est digne, parce que Dieu n'a pas mis un trait final à leur vie. Il y a une gloire qui va remplacer cette souffrance. Si on n'avait que pris l'Ancien Testament pour notre connaissance de Dieu, nous aurions vu une histoire de succession de promesses qui ne sont pas encore accomplies. Si on parle des Sadducéens, une des choses les plus bizarres qu'on peut remarquer en lisant la Torah, c'est que la Torah se termine en dehors de la terre promise. Moïse meurt, le peuple est en dehors de la Palestine, de la terre promise, et nous disons, la Torah, les 5 livres de la loi de Moïse, se termine sans que les promesses de Dieu ne soient accomplies. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que la Torah termine avec les os de Joseph? Pourquoi est-ce que la Genèse, termine avec les os de Joseph en Égypte? Pourquoi est-ce que Deutéronome termine avec le peuple pas encore entré dans la terre promise? Pourquoi est-ce que Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, termine avec l'attente de quelqu'un qui doit venir pour enfin mettre les choses en ordre? C'est parce que les promesses ne sont pas encore accomplies et que nous attendons quelque chose de Dieu. Nous attendons qu'il garde ses promesses. Le seul moyen que cela soit possible, c'est par la résurrection. Dans la résurrection et la vie éternelle, Dieu va se montrer fidèle en tout et à tous à travers les générations. Et donc, nous avons ces attentes pour Dieu. Nous attendons la vie au-delà de la mort. Nous attendons quelque chose de meilleur aujourd'hui. Et nous attendons la fidélité de Dieu à ses promesses. Bon, j'aimerais, pour terminer, juste remarquer ceci. Jésus fait appel au témoignage de l'Ancien Testament pour nous montrer que Dieu doit ressusciter les morts. Mais nous avons quelqu'un d'autre à qui regarder. Si le témoignage de qui est Dieu est suffisant, Dieu nous a donné quelque chose de mieux pour attendre la résurrection. Et c'est la résurrection de Christ lui-même. Jésus, en quelque sorte, c'est l'interprétation par excellence de toutes les Écritures, de tout l'Ancien Testament. En Jésus, nous voyons Dieu révélé pleinement. Et nous voyons notre attente pour la vie éternelle. Ça, c'est le point où Paul veut en venir dans 1 Corinthiens 15. Nous avons un Christ mort et ressuscité. Donc, à cause de cela, nous attendons non seulement de mourir, mais une résurrection pour la gloire éternelle. Que cela soit notre espérance et vraiment le centre de ce que nous attendons de Dieu pour toute notre vie.